J'arrive à la partie 3 sur les 7 refus de Moïse. Dieu paraît à Moïse dans le buisson ardent et lui dit « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs. » Voilà, on retrouve un petit peu « J'ai entendu les Ninivites qui s'égaraient », on retrouve un petit peu ça. Hein, Dieu qui est pris de pitié pour son peuple qui est bloqué en Égypte. Voilà, et il dit « Va maintenant, je t'envoie vers le peuple, fais sortir mon peuple, les fils d'Israël. » Voilà. Ou « Sauve les fils d'Israël ». Il y a des commentateurs juifs qui ont dit que le « va », il est un peu emphatique, c'est-à-dire que ça fait un peu comme si on disait « allez » ou il n'a pas sa place dans le texte, ça, il n'apparaît pas naturel. Et donc les commentateurs ont dit « mais en fait, c'est une manière pressante de parler, c'est une manière de dire « il n'y a que toi qui peux accomplir ça, parce que sinon ils sont tous morts, quoi ». C'est Dieu qui parle avec ses entrailles maternelles, je dirais, pour dire « il faut que tu y ailles, quoi ». Et il y a un deuxième élément qui permet de dire la même chose, c'est quand Dieu appelle Moïse, quelques versets avant, il dit « Moïse, Moïse !» Et il n'y a pas de virgule, il n'y a pas, enfin, en hébreu, c'est une pause comme nous, une virgule. Quand on entend « Abraham, Abraham », il y a une virgule entre les deux. Quand Dieu il dit à Samuel, « Samuel !» Samuel, il y a une virgule, c'est-à-dire que c'est Dieu qui, tout doucement, voilà. Là, c'est Moïse, Moïse. Et les rabbins disent, mais c'est comme quelqu'un qui est au fond d'un puits, quoi, qui appelle au secours, quoi. L'appel de Dieu vis-à-vis de Moïse, quand il lui dit, je t'envoie en mission pour délivrer l'Égypte, délivrer les fils d'Israël et des Égyptiens avec, c'est un appel pressant. Donc le décor, c'est ça. Le cadre de la mission, et je pense qu'on peut le prendre pour nous aussi, on ne réalise pas assez à quel point, quand Dieu nous appelle à une mission, en réalité, c'est avec ses entrailles qu'il parle, parce que c'est par grâce qu'il dit tous les gens, si vous vous occupez d'un service d'église, des gens de la rue, oh là là, la misère des gens de la rue est montée jusqu'à moi, va, il faut que tu t'en occupes, quoi, voilà, etc., dans tous les services, et c'est très beau. Si on réalise ça, je pense que ça peut être un stimulant supplémentaire pour dire, bon, allez, c'est pas grave, si il y a un peu la croix à avaler. Voilà. Et on a cette première réplique, cette première objection de Moïse, qui est « Qui suis-je, Seigneur ? Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ?» Alors le « Qui suis-je », c'est finalement, c'est l'idée selon laquelle la mission repose sur moi et pas sur toi, Seigneur. Ouais, c'est le « Qui suis-je hein ?» Dieu m'a demandé une chose. Et je fais comme si tout ne dépendait que de moi, comme si on m'avait passé le poids, et puis qu'il y avait une barrière entre Dieu et moi qui s'était installée, et puis que c'était à moi de porter le poids tout seul avec mes petits bras. Et donc, c'est la première tentation, en fait. Une première objection qu'on peut faire quand on reçoit une mission, c'est de se dire « j'y arriverai jamais parce que moi tout seul, c'est pas possible. » Et alors... À chaque fois, donc, il y a une réponse de Dieu, une réponse immédiate qui est « Je suis avec toi », qui est comme un cadeau, et on en avait parlé la dernière fois. Dieu fait le cadeau de son nom, et son nom a une efficacité, son nom a une capacité à nous faire connaître qui il est, et son action. Son nom induit une action, « Je suis avec toi », en fait, que fait ce nom mystérieux de Dieu ? Ça va, alors... Par exemple, parce qu'il y a sûrement beaucoup de choses que ça fait de prononcer un des noms de Dieu avec foi, mais c'est notamment « je vais être affermi dans ma mission, je vais être éclairé dans ma mission, je vais... » Voilà, quand je me dis « Seigneur, tu as dit « je suis avec toi ». Alors on peut dire aussi « j'étais, je suis et je serai », vous savez, parce que le « je suis », le tétragramme, « Yahvé », ça veut dire dans le passé, le présent et l'avenir, parce que quand le ciel... Enfin, ce qui se passe au ciel, c'est le passé, le présent et l'avenir. Donc, je suis avec toi de toute éternité, quoi. Et un deuxième élément que Dieu donne immédiatement, je te donne un signe, c'est que vous servirez sur cette montagne. Et il est drôle, ce signe, parce que, quelque part, ça fait une belle jambe à Moïse de... Enfin, on peut se dire, mais en quoi ça va l'aider dans sa mission ? Ben, en fait, c'est que Notre mission, on l'avait vu un peu la dernière fois, est liée aussi à des petites délicatesses du Seigneur qui nous montrent des panneaux indicateurs que notre regard ne peut pas voir parce qu'ils sont trop éloignés. Ils nous révèlent des éléments de l'avenir pour nous aider à ne pas nous focaliser sur par où on va passer, comme quelqu'un qui est dans sa voiture et qui ne va pas rester rivé sur sa carte parce que ce n'est qu'une carte routière en quelque sorte. Voilà. Et vous servirez sur cette montagne. Il y a un deuxième élément, moi, qui m'est apparu, c'est que à défaut de pouvoir se réjouir de cet élément, cette promesse qui est faite, parce que ça peut être un sujet d'espérance, enfin normalement, mais si je suis un peu aride dans ma prière et que je dis Seigneur, c'est trop dur là ce que tu me demandes, je peux essayer de dire Seigneur, je te bénis pour le fait que demain, ton plan d'amour va se réaliser et notamment, on va sortir de là et on va te servir sur cette montagne. C'est-à-dire qu'on aura un culte complètement indépendant des Égyptiens dans un lieu où on pourra faire ce qu'on veut et faire les choses dans les grandes largeurs en prenant le temps de faire la fête et en n'allant pas travailler le jour du sabbat, etc., etc. Vous voyez, pour les Juifs, c'était ça en tout cas. Donc, ce que Dieu va nous révéler dans notre mission, que Dieu va nous révéler dans notre mission, on peut en faire un sujet de louange. Seigneur, je te bénis pour cette situation de demain. Donc ça, c'est la miséricorde du Père qui s'exprime dans la réponse de Dieu, je pense. Et la justice du Père, parce que tout ce qu'on fait induit une forme de déséquilibre. En fait, notre refus va être comme une noirceur, quelque chose qui va atteindre le rôle qu'on aurait pu avoir. Et Alexis, il a poussé. Et Louisette, elle a poussé. Et vous avez tous poussé, finalement, en menant votre mission. Et moi, j'ai été faible, donc j'ai moins poussé. Donc le mammouth, quoi, le véhicule, a avancé moins vite à cause de moi. Donc ça a des conséquences pour les autres qui doivent pousser plus fort. C'est ça, la justice du Père. C'est-à-dire que c'est une conséquence pratique. Et comme on va subir cette conséquence de notre propre péché, eh ben on va pouvoir rattraper le coup parce qu'on va dire ah oui Seigneur c'est vrai je reconnais que là par exemple comme on n'a pas pris assez d'élan pour passer le trottoir quand on a poussé le véhicule, eh ben au moment où la roue de la voiture arrive sur le trottoir il va falloir pousser plus fort alors que si j'avais eu la foi et que j'avais poussé le véhicule dès le départ, boum, on aurait passé le trottoir sans même s'en rendre compte quoi, voyez, c'est un peu ça. Donc là la conséquence c'est au chapitre, enfin moi une conséquence que j'ai vue c'est au chapitre 5 verset 2 quand Moïse et Aaron vont voir le pharaon et qui disent, bon, bah, alors on les imagine bien un petit peu fébriles comme ça, pas trop assurés, et puis dire, Dieu nous a dit qu'il fallait que tu nous laisses partir, parce que... Voilà. Enfin, moi, je l'imagine bien comme ça. Je ne sais pas s'il était plus imposant que ça, mais en tout cas, Pharaon répond, qui est le Seigneur Yahvé? Qui est Yahvé Adonai pour que j'entende sa voix et que je renvoie Israël? J'ai vu une conséquence parce que il y a le qui suis-je et qui est Yahvé Adonai. C'est-à-dire que il a quelqu'un qui, au lieu de lui dire je vais peut-être réfléchir à ce que tu me dis, ou je vais t'écouter, ou je vais faire quelque chose, qui va centrer le débat sur mais au fait, Dieu n'existe pas. L'esprit enfin athéisme, enfin donc pas les athées eux-mêmes, mais l'esprit d'incrédulité, c'est-à-dire de négation de Dieu, finalement. Qui va s'exprimer en ramenant tout de manière très matérielle, en disant, bah, tu vois Dieu, toi? Non. Voilà. Et un certain nombre de scientifiques aujourd'hui, par exemple, disent, je peux pas observer Dieu avec mon microscope ou ma grande vue ou un arc électrique, j'en sais rien. Donc, il n'existe pas. Vous voyez, il y a ce côté, bon, qui est Dieu? Alors, et puis, dans les commentaires des rabbins, des juifs, on trouve une chose, moi, qui m'a fait rire, qui est que il appelle ses scribes, en fait, et il leur dit, amenez-moi le livre avec tous les dieux qu'on connaît, qui sont recensés, et hop, il tourne les pages, tout ça, et puis il dit, alors, le dieu de machin, non, c'est pas vous, Marduk, non, Baal, non, vous dites comment, le dieu d'Israël? Alors, il savait pertinemment que c'était pas dans son bouquin, hein, bah non, il y est pas, et voilà. Et je trouve que c'est génial, parce que des fois, on a des gens qui vont nous présenter un argumentaire, enfin, ils ont vu une super émission à la télé qui démontre que Dieu n'existe pas, et on va se retrouver un peu sec. Nous, ce qu'on va pouvoir offrir, c'est le fait qu'on n'aura peut-être pas été assez assuré du fait que notre parole aurait pu être autoritaire, quoi. De dire, bah, Dieu m'a dit ça, voilà, je te le dis, et j'ai pas peur, je ne tremble pas en te le disant, voyez? Et là, on est face au trottoir, et il faut pousser un peu pour que la roue, elle monte le trottoir. Et là, il n'est pas prêt à monter le trottoir, semble-t-il. Et on trouve, alors j'ai mis entre parenthèses parce que c'est un peu hors sujet, mais c'est pas grave, c'est une complication. Ce que j'appelais une complication, c'est que Moïse il se défend en argumentant, en disant, mais tu sais, nous si on te demande ça, c'est pour éviter que Dieu nous envoie la peste et l'épée. C'est un peu, oui, mais je vais à la messe, mais parce que mes parents ils m'ont obligé, ou parce que là j'avais pas le choix, parce que bon, il y avait une fête. Voilà. Et on devrait pas dire ça, en fait, on devrait se taire au moins. Et là, on retrouve une conséquence aussi de ça, que et un peu plus tard, justement, ils se prennent des coups de bâton des Égyptiens qui les obligent à faire plus de briques, vous savez. Ben, moi, en lisant le texte, j'y ai vu une conséquence pratique de une forme d'incrédulité. Je pense que ce fléau-là aurait pu leur être épargné s'ils avaient pris la défense du Seigneur en présence des autres, vous voyez. Voilà. Donc, quand nous, on ne prend pas la défense du Seigneur ou qu'on dit des choses qui vont un peu ternir le nom du Seigneur, malheureusement, on peut voir des conséquences pratiques plus tard. Et donc, notre manière de rattraper le coup, bah, c'est de subir les coups de bâton en disant: Seigneur, pardon, c'est vrai, j'aurais dû prendre plus ta défense. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le premier obstacle, à mon avis, dans la mission. C'est un peu d'être un planqué. De dire: bah, c'est moi qui porte tout et c'est pas le Seigneur. Et puis, je vais pas assumer ma mission en disant: bah, voilà, c'est comme ça et je suis fier d'être chrétien, sans être pédant non plus. Mais voilà. Normalement, il y a une assise qui est que je suis joyeux, c'est un signe, voilà, je suis un signe. Nous sommes des signes et des présages pour Israël. Hein, c'est écrit dans, je crois que c'est Isaïe ça. Nous sommes des signes et des présages. Oh, moi, quand je me répète ça, ça m'aide. Je me dis vraiment, voilà.